Nous allons parler cet après-midi de la bénédiction de Dieu. Peut-être qu'en lisant le texte qui vient d'être lu, vous vous êtes dit, mais quelle bénédiction il peut y avoir à être en prison? Quelle bénédiction il peut y avoir d'être esclave dans un pays étranger? Quelle bénédiction il peut y avoir, parce que vous connaissez sans doute l'histoire de Joseph, le fils de Jacob, quelle bénédiction il peut y avoir à être haï par ses frères, détesté par ses frères, et vendu par ses frères à des marchands. Vous savez que la Bible contient de nombreux textes qui parlent de la bénédiction du Seigneur. Dans la Genèse, au moment de la création, il nous est dit que Dieu, avant de créer les êtres humains, a créé les animaux. Et il est ajouté, Dieu créa les animaux de toutes sortes et il les bénit. Donc les animaux, on pourrait dire ainsi, les animaux sont les premiers à avoir reçu la bénédiction de Dieu, avant même les humains. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus cet après-midi, ce n'est pas le sujet. Je ne pense pas que ça nous mènerait très loin. Peu de temps après, nous lisons toujours dans la Genèse, au chapitre 1er, que Dieu a créé l'homme. En fait, il a créé l'homme, homme et femme. Et il les a bénis. Plus tard, c'est le tour d'Abraham que Dieu bénit. Dieu l'aide à devenir un homme de foi. On pourrait peut-être détailler et dire que Dieu a accompagné Abraham depuis son appel dans le sud de la Mésopotamie, comme elle s'appelait à l'époque, l'Irak d'aujourd'hui. Il l'a appelé d'une manière spectaculaire, sans doute miraculeuse, puis l'a accompagné dans ses voyages jusque dans la terre promise, et il l'a accompagné durant toute sa vie. Le cheminement d'Abraham est une rencontre permanente avec Dieu, ou une découverte permanente de Dieu, accompagnée toujours de la bénédiction de Dieu. Dieu donc l'a accompagné, l'a aidé à devenir un homme de foi, et à un certain moment de son cheminement avec Dieu, Dieu l'a béni d'une manière plus grande encore, en lui accordant le fils qu'il rêvait d'avoir et que Dieu lui avait promis d'avoir, même à un âge avancé. Plus tard, dans le livre de l'Exode, Dieu bénit son peuple, Israël, en lui accordant la protection de toute maladie. Encore plus tard, dans le livre du Lévitique, il y a plusieurs textes, dont celui-ci, Lévitique chapitre 26, verset 5, où Dieu dit à son peuple, « Vous mangerez votre pain à satiété » et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Un peu plus loin, juste après, il dit, « Je mettrai la paix dans votre pays, vous dormirez sans que personne ne vous trouble, je ferai disparaître du pays les bêtes féroces, et l'épée ne passera pas dans votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis, et ils tomberont par l'épée devant vous. » Cela nous parle de la bonté de Dieu, de sa bénédiction, sous la forme de la nourriture qu'il donne à son peuple. Et vous savez comme moi que dans le désert, Dieu a pourvu miraculeusement à la nourriture de son peuple en lui donnant la manne et en lui donnant aussi l'écaille. Dieu, comme nous venons de le voir, a béni son peuple en lui apportant la sécurité et encore plus en combattant lui-même contre ses ennemis. Alors, on va se poser la question. Mais au fait, qu'est-ce que la bénédiction du Seigneur ? La bénédiction du Seigneur nous parle de la bonté de Dieu, de la faveur de Dieu, et d'une certaine manière du bonheur. D'ailleurs, je remarque que lorsque Dieu dit à son peuple dans le Nouveau Testament, dans le Sermon sur la montagne, au tout début du Sermon sur la montagne, Jésus appelle ses disciples s'approchent de lui et il dit à ses disciples « heureux, heureux ». Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu, etc., etc. Heureux les purs, parce qu'ils verront Dieu. Et ce mot « heureux » est intéressant, parce que dans la langue anglaise, l'anglais ne traduit pas ce mot hébreu ou ce mot grec par « heureux », mais par « béni ». Bénissons, « blessed » en anglais. Bénissons ceux qui sont pauvres en esprit. Il y a donc dans la Bible souvent un rapport direct ou une étroite union entre ces deux mots, heureux et béni. J'ai remarqué souvent, surtout en France, lorsque dans certaines églises on nous demande de prier, nous les pasteurs, après le culte ou à la fin d'une réunion pour ceux qui sont malades, alors les gens s'approchent devant. Et avant de prier pour eux, on leur demande ce qu'ils veulent du Seigneur, ce qu'ils veulent recevoir. Et j'ai remarqué qu'il y a des gens qui viennent, mais même s'ils ne sont pas malades, même s'ils n'ont pas de problème. D'habitude, les gens s'approchent pour cela, pour qu'on prie pour eux pour cela. Et parfois, les gens s'approchent, et quand on leur demande « Que voulez-vous du Seigneur ?», les gens répondent « Je voudrais que le Seigneur me bénisse. » Je suis toujours un petit peu interpellé par ce genre de requête, de prière, parce que dans la Bible, on remarque que la bénédiction, c'est quelque chose de plus grand encore que cela. Si vraiment Dieu bénissait directement, d'une manière spéciale, les gens sur lesquels on pose les mains et pour lesquels on prie, je crois que tout le monde viendrait dans toutes les réunions de toutes les églises du monde pour qu'on leur impose les mains. Mais Jésus n'a jamais dit « Vous imposerez les mains à ceux qui veulent être bénis et ils seront bénis ». La Bible a une toute autre conception de la bénédiction. L'histoire que nous avons lue, enfin nous avons lu quelques textes de la vie de Joseph. Nous n'avons pas tout lu parce qu'il aurait fallu l'après-midi pour lire cette histoire assez extraordinaire. Vous savez que Joseph a grandi dans une grande famille. Son père avait 12 enfants et lui est arrivé le 11e. Donc il a été pendant un temps le petit dernier. Et pour des raisons que nous ignorons vraiment, Jacob, le père, a fait de cet enfant, Joseph, le 11e, son préféré. Je signale au passage que chaque fois que des parents ont un enfant préféré, c'est le début des problèmes. Pas forcément pour les autres aussi, mais également pour celui qui est préféré. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans l'histoire de Joseph, puisque Joseph a été victime très vite de la jalousie de ses frères. Ce qui a amené ses frères à se débarrasser de lui. Joseph a été donc, comme nous l'avons dit tout à l'heure, vendu à des marchands qui ensuite sont allés en Égypte et qui ont vendu Joseph à un fonctionnaire, un haut fonctionnaire du Pharaon, le dénommé Potiphar, celui qui est appelé son maître. Potiphar, le nouveau maître de Joseph, avait une femme. Et cette femme a voulu porter son dévolu sur Joseph. Mais Joseph, sachant que cette femme était mariée, n'a rien voulu faire. Il a préféré prendre la fuite. Et vous le savez sans doute, vous connaissez l'histoire, elle se lit facilement. Et c'est une histoire assez extraordinaire. Joseph va être accusé mensongèrement par la femme de Potiphar. Et donc il va aller en prison. Alors, l'histoire de Joseph, malgré ce contexte très négatif en apparence, va être l'incarnation même de la bénédiction de Dieu. À première vue, on pensera tout à fait naturellement et logiquement que la prison ne peut pas être le lieu de la bénédiction. Quel est l'être humain normal qui, une fois arrivé en prison, pour quelque raison que ce soit, même si c'est injustement qu'il a été accusé, comme cela arrive encore malheureusement aujourd'hui de temps en temps. Quel est l'être humain normal qui, une fois dans sa cellule, va se dire « Dieu est merveilleux, je suis en pleine bénédiction ». Non, généralement ce n'est pas cela. Généralement, quand on est en prison et qu'on sait ce qu'on a fait et qu'on sait qu'on le mérite, on ne pense pas cela. À la limite, le délinquant le plus honnête dira « Bon, je n'ai que ce que je mérite », comme le brigand sur la croix, celui qui s'est repenti. Mais ce que nous lisons dans Genèse et ce que nous avons lu tout à l'heure après les premiers versets, semble dire le contraire. Ici, nous voyons que Dieu est avec Joseph. Et nous avons même lu que Dieu l'a béni, l'a fait prospérer, comme dit le verset 3, il a fait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. La même chose était dite de Joseph quand il était simplement le serviteur ou l'esclave de Potiphar. Dieu faisait prospérer toutes choses entre ses mains et Potiphar ne s'occupait plus de rien. Et nous voyons que dans la prison, ça va être la même chose. Dieu, comme il avait béni la maison de Potiphar, va bénir Joseph en prison et va faire prospérer tout ce qu'il fait. Alors, comment peut-on imaginer qu'un homme qui prospère dans sa prison? Aujourd'hui, on se dirait, bon, c'est un homme qui, bien qu'en prison, a gardé un téléphone portable ou a réussi à s'en procurer un et qui dirige ses affaires malveillantes, délinquantes, depuis sa prison. On dirait, oui, il prospère. Pas vraiment en prison, mais même en prison, il prospère. Mais ici, il ne s'agit pas du tout de la même chose. Joseph n'est pas un délinquant. Joseph est un jeune homme qui a été fidèle à Dieu en toutes choses. C'est la raison pour laquelle il est en prison. Mais il est dit, Dieu l'a fait prospérer en prison. C'est là que nous devons nous interroger sur ce qui fait le succès d'un homme aux yeux de Dieu. Puisqu'il est en prison, il ne gagne pas d'argent, il n'est pas payé en prison, mais le chef de la prison, sachant que c'est un homme bien, ne se pose pas la question, mais pourquoi est-il en prison? Il se pose simplement la question, comment je pourrais lui confier des choses, puisque c'est un homme bien? Nous ne connaissons pas le détail de la prospérité en prison de Joseph. Mais nous avons ici une leçon importante, une première leçon importante, c'est celle-ci. La bénédiction de Dieu n'est pas liée à un lieu particulier. Ce n'est pas parce que nous sommes dans l'Église que nous sommes plus bénis que lorsque nous sommes chez nous, en tant qu'enfants de Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes dans l'Église que nous sommes plus bénis que quand nous sommes à l'école, à l'université ou au travail. La bénédiction de Dieu ne dépend pas d'un lieu, elle ne dépend pas de conditions particulières. Aujourd'hui, on entend souvent dire que, par exemple, que avoir une bonne situation financière, c'est une bénédiction. Certains disent avoir une belle voiture, c'est une forme de bénédiction. Avoir une belle maison aussi. Certains diront avoir une belle femme aussi, pourquoi pas. Ou un beau mari, je ne sais pas. Mais la Bible parle beaucoup plus des bénédictions spirituelles. La bénédiction de Dieu peut être expérimentée aussi dans des lieux inattendus ou dans lesquels nous ne voyons pas d'habitude une bénédiction particulière. L'exemple de Joseph, premièrement, dans la maison de Potiphar, où il était esclave, puis dans la prison, où il est un esclave emprisonné. Cette situation, cet exemple de Joseph, nous enseigne une grande leçon concernant la bénédiction de Dieu. Que dit la Bible exactement? Trop souvent, nous raisonnons comme des êtres humains. Nous sommes des êtres humains. C'est donc normal que nous nous servions de notre intelligence pour raisonner. Mais ce que dit la Bible est beaucoup plus important. La Bible dit que quand Joseph était dans la maison de Potiphar, Dieu était avec Joseph. Indépendamment des circonstances qui l'avaient amené en prison, chez Potiphar, et indépendamment du fait qu'il était esclave. Deuxièmement, il est dit que tout ce qu'il faisait réussissait pendant qu'il était avec son maître égyptien. Troisièmement, il est dit que son maître a vu que Dieu bénissait Joseph en étant avec lui. On ne sait pas exactement, concrètement, ce qu'a vu Potiphar. Il est simplement dit Potiphar a vu que le Seigneur était avec Joseph. Il a donc vu que tout ce que faisait Joseph était bien fait. Il a vu que Joseph avait sans doute des talents pour organiser, pour administrer. Cela nous parle également du témoignage que rendait Joseph dans sa prison, dans la maison de Potiphar, avant de le rendre dans la prison. Quelle que soit notre situation dans la vie, nous devons avoir une bonne conduite, comme Joseph, parmi ceux qui ne croient pas. Parce que c'est parmi eux que nous vivons. C'est parmi eux que nous travaillons. Certaines fois, ces gens non-croyants sont dans notre propre maison, dans notre bureau, sur notre lieu de travail, très souvent d'ailleurs, et très souvent aussi dans l'école que nous fréquentons. L'important, ce n'est donc pas où nous nous trouvons et ce que nous faisons, même si cela a son importance, mais c'est de savoir, comme Joseph, que Dieu est avec nous et nous comporter d'une manière qui lui plaise. Nous avons dans la Bible aussi l'exemple de Saul de Tarse et de Silas, son compagnon de voyage, qui se sont trouvés un jour en Grèce, dans la ville de Philippe, et qui ont été persécutés à cause de l'Évangile. Ils n'avaient rien fait de mal, mais ils dérangeaient la ville, parce que dans la ville, il n'y avait pas de croyants en Dieu, enfin, pas selon l'Évangile. Alors vous savez qu'à un certain moment, comme ils, en prêchant l'Évangile, ils avaient apporté la guérison, la délivrance à une jeune femme qui était possédée du démon. Alors ils ont fait péricliter les affaires d'un commerçant de la ville, et ce commerçant a poussé la foule afin qu'elle réclame l'arrestation de Paul et de Silas. Et ce que nous lisons d'intéressant à propos de la bénédiction de Dieu, c'est que, alors qu'ils étaient dans leur prison, alors que les autorités romaines de la ville avaient fait fouetter Paul et Silas et les avaient fait rouer de coups, dans leur prison, Paul et Silas ont considéré d'une certaine manière qu'ils étaient bénis par Dieu. Comment pouvons-nous savoir cela? Parce que dans leur prison, Paul et Silas ne se sont pas lamentés. Ils n'ont pas gémi à cause de leurs blessures. Ils n'ont pas protesté à cause de l'injustice dont ils avaient été victimes. Vous savez, on est parfois victime d'injustice. Et nous pourrions nous poser la question, mais comment réagissons-nous en tant que chrétiens quand nous sommes victimes d'injustice? Aujourd'hui, on essaye par tous les moyens de se défendre. On se dit, je vais prendre un avocat. On se dit, je vais écrire à monsieur le maire, à monsieur le premier ministre, pourquoi pas au président de la République, lorsque l'affaire est grave. On a tout de suite des associations qui viennent nous aider. Mais il n'y avait pas tout cela à l'époque. Paul et Silas sont dans leur prison, et la Bible dit, et c'est là que j'en viens à la bénédiction de Dieu, au milieu de la nuit, ils se sont mis à louer Dieu et à chanter. Certainement pas des chants de tristesse ou des marches funèbres, parce qu'on ne chante pas trop les marches funèbres, mais ils se sont mis à chanter parce qu'ils étaient heureux, non pas heureux parce qu'ils souffraient, mais heureux parce qu'ils souffraient pour la cause de l'Évangile. Ils ont donc en prison, tout comme Joseph auparavant, bien des siècles auparavant, ils ont considéré que, bien qu'en prison, ils étaient bénis par Dieu. Alors je pose la question, qu'est-ce que la bénédiction de Dieu? Pourquoi ces hommes-là sont considérés dans la Bible comme étant bénis par Dieu? Qu'est-ce alors que la bénédiction de Dieu? Et la conclusion nous semble assez évidente. La bénédiction de Dieu, la bénédiction suprême de Dieu, à partir de ces deux exemples, et nous pourrions en citer beaucoup d'autres, à partir de ces deux exemples, nous comprenons que la bénédiction de Dieu, ce n'est pas la possession de quelque chose, comme tout à l'heure je parlais, la possession d'une bonne situation financière, d'une belle voiture, d'une belle maison, etc., etc. La bénédiction suprême, c'est la présence de Dieu avec nous. la présence de Dieu avec nous. Dans sa prison, comme pendant toute sa vie, Joseph est conscient de la présence de Dieu. Dans leur prison, eux, ils vont y rester que quelques temps, quelques heures, peut-être une nuit entière, Paul et Silas considèrent qu'ils sont bénis parce que Dieu est avec eux. Cela nous amène, la vie de Joseph et l'exemple de Paul et de Silas, dans leur prison, nous font comprendre que la bénédiction de Dieu, c'est donc sa présence avec nous. Mais également, cette présence, cette bénédiction, elle est pour ceux qui sont fidèles au Seigneur. C'est beaucoup plus visible, dans l'exemple de Joseph, même si c'est visible aussi dans l'exemple de Paul et de Silas. Paul et Silas ont obéi à l'ordre de Dieu d'évangéliser. Et parce qu'ils ont obéi à cet ordre, ils ont été persécutés, mais Dieu est resté à leur côté en toutes circonstances. La preuve, c'est qu'ils vont être libérés de prison. Leur heure n'est pas arrivée. Ils sont libérés de prison, à la fois par le fait qu'il y a un léger tremblement de terre qui ébranle les murs de la prison, qui pousse à la panique le directeur de la prison, parce qu'à l'époque, il craignait que des prisonniers s'évadent à la faveur de ce petit tremblement de terre, mais suffisant pour ébranler les portes, pour les faire tomber et pour permettre aux prisonniers de sortir. Et à l'époque, il faut savoir qu'un directeur de prison, dont certains prisonniers s'évadaient, subissait le sort que devaient subir normalement les prisonniers évadés pendant qu'ils étaient en prison. Par exemple, concrètement, disons ceci, si par exemple un prisonnier est en prison et qu'il est condamné à mort et qu'il attend le jour de son exécution, s'il s'évade, le directeur de la prison, qui est considéré comme responsable de surveiller les prisonniers, sera arrêté et condamné à mort, et donc exécuté. On comprend alors pourquoi ce directeur de prison a paniqué lorsqu'il a cru que des prisonniers s'étaient évadés. Visiblement, il y avait des prisonniers qui étaient condamnés à mort dans cette prison avec Paul et Silas. La raison principale de la présence de Dieu aux côtés de Joseph pendant toute la durée de sa vie a été sa fidélité à Dieu. La bénédiction de Dieu est réservée à ceux qui sont fidèles à Dieu. Paul a été fidèle, Silas a été fidèle, les premiers apôtres de Jésus ont été fidèles, les chrétiens, les premiers chrétiens ont été fidèles et ils ont eu toujours avec eux la présence de Dieu. Joseph, son exemple est particulièrement frappant parce que être fidèle à Dieu quand tout va bien, c'est relativement facile. Se sentir béni par Dieu quand tout, pour reprendre l'expression populaire, quand tout baigne dans la vie, c'est relativement facile. Celui qui a un bon travail sans avoir beaucoup cherché, celui qui a une belle maison parce qu'il a bien travaillé, celui qui a fait de belles études parce qu'il est intelligent et parce qu'il est par nature travailleur, celui-là va considérer facilement qu'il est béni. Mais la bénédiction de Dieu, pour Joseph, ce n'est pas aussi évident. Parce que jusqu'au moment où il va être libéré de sa prison, il n'a vécu que des épreuves. Que des épreuves. C'est pour cela que nous disons, par exemple, lorsque la femme de Potiphar a essayé de le séduire, ce n'était pas facile pour lui de dire non. Parce qu'il aurait pu raisonner simplement, comme d'autres, en disant « C'est la femme de mon patron, il vaudrait mieux que j'obéisse. » Mais il ne s'est pas dit cela. Il dit, malgré le fait que c'est la femme de mon patron, malgré le fait que je risque gros si je dis non, je vais dire non parce que j'aime le Seigneur et que je veux lui être fidèle. Et si je lui suis fidèle, même dans ces choses-là, comme dans toutes les autres, alors Dieu aura le dernier mot un jour. Et c'est ce qui s'est passé. Il voulait plaire non pas à la femme de son patron, mais au Seigneur. Et souvent, C'est une question, pour être fidèle, c'est une question de savoir à qui on veut plaire. Là, le choix qu'il a fait n'était pas un choix facile, comme celui, par exemple, du prophète Daniel et de ses amis, quand ils ont été emmenés prisonniers à Babylone. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions parce qu'il voulait rester fidèle à Dieu. Mais Dieu l'a libéré de la gueule des lions. Ses trois amis, Shadrach, Meshach et Abednego, ont été jetés dans une fournaise ardente qui chauffait à je ne sais combien de centaines, voire mille degrés, et ils ont refusé de céder aux pressions du roi qui voulait qu'ils adorent une statue qu'il avait érigée en son honneur. Et Dieu les a libérés, miraculeusement, de la fournaise ardente. Si donc nous décidons de rester fidèles au Seigneur, nous pouvons imaginer ce que Dieu pourra faire en notre faveur. Dans Éphésiens chapitre 3, versets 20 et 21, il y a ce texte bien connu qui dit ceci: à Dieu, par la puissance qui agit en nous et qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dieu, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. La bénédiction de Dieu ne nous immunise donc pas contre les épreuves. Et la fidélité à Dieu non plus. Encore une fois, l'histoire personnelle de Joseph le démontre. Celle d'Abraham le confirme aussi. Il a été fidèle au Seigneur même quand Dieu l'a mis à l'épreuve. Lorsque Dieu lui a accordé un fils, par miracle, puisque lui et sa femme avaient dépassé l'âge d'avoir des enfants, Abraham a considéré qu'il avait la plus grande bénédiction de sa vie. Et il ne savait pas que quelques temps après, quelques dizaines, peut-être 20 ans après, Dieu allait lui demander d'offrir en sacrifice ce fils que Dieu lui avait promis. Mais Abraham a été fidèle, il a obéi à Dieu. Et alors il a vu la main de Dieu, non pas dans la résurrection de ce fils, ce qu'il s'attendait peut-être à voir, mais dans le fait que Dieu a épargné son fils. Dieu n'a jamais favorisé, n'a jamais vu d'un bon œil les sacrifices humains. Si donc nous maintenons notre fidélité en Dieu, notre confiance en Dieu, Dieu nous aidera à progresser dans la foi. La bénédiction suprême étant la présence de Dieu, il ne nous abandonnera jamais si nous sommes fidèles, même au sein de l'épreuve. Alors, en conclusion, rappelons-nous ceci. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas forcément une chose précise, comme nous l'avons cité tout à l'heure. La bénédiction de Dieu, c'est plutôt la faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu. C'est une certaine forme de bonheur, comme nous l'avons dit au début de notre méditation. Mais la bénédiction de Dieu, c'est d'abord l'assurance, la prise de conscience de la présence de Dieu. J'ouvre une parenthèse en disant que quelquefois on entend des gens dire « Oh, c'était bien hier ou dimanche à l'église, j'ai senti la présence de Dieu ». Mais cette expression ne se retrouve jamais dans la Bible. Il n'est jamais dit dans la Bible que des gens ont senti la présence de Dieu. La présence de Dieu, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on le ressent, c'est quelque chose qui est, qui existe. Joseph, dans sa prison, tout comme Paul et Silas, savait, était conscient, il ne sentait pas, mais ils étaient conscients du fait que Dieu était avec eux. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient fait rien de mal. Et parce que, bon, on ne les a pas exécutés non plus. Puis si on les avait exécutés, ils auraient dit, c'est parce que mon temps était terminé. Non, ils ont maintenu leur fidélité en Dieu, et c'est par cela qu'ils ont reconnu que Dieu était avec eux. Et Dieu est resté avec eux parce qu'ils ont été fidèles. Alors, restons fidèles à Dieu, aimons Dieu de tout notre cœur, et sachons que la bénédiction de Dieu sera toujours avec nous, c'est-à-dire sa présence sera toujours avec nous, si nous lui demeurons fidèles, que son nom soit béni.